avec Rolex.
Vacarme.
C'est ça l'idée, c'est de trouver un standard commun, d'assurer un standard minimal de protection des droits fondamentaux en deçà duquel un État européen qui serait parti au système ne pourrait plus retomber. On peut très bien voir un gouvernement qui arrive au pouvoir d'un de nos États et revenir sur certains acquis. Et dans ce cas-là, le mécanisme de la Convention européenne sera extrêmement utile parce qu'il évitera des retours en arrière en matière de liberté fondamentale.
Vacarme.
Peut-on se passer de la Cour européenne des droits de l'homme ?
Véronique Marty, Marc Hughes.
Bonjour à tous et à chacune. Cinquième et dernier épisode de cette série de reportages consacrée à la Cour européenne des droits de l'homme. Cette Cour, qui siège à Strasbourg depuis 56 ans, a été créée par les États membres du Conseil de l'Europe, à ne pas confondre avec la Communauté européenne. Le Conseil de l'Europe est plus ancien, 1949. Il est plus large, 47 États, dont la Suisse. Il est aussi plus limité dans ses objets, défendre la paix, la démocratie et les droits humains. C'est lui qui a élaboré, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, la Convention européenne des droits de l'homme. Et la Cour européenne des droits de l'homme est un tribunal chargé de veiller au respect de cette convention par les États qui en sont signataires. Aujourd'hui, l'UDC estime que les jugements de la Cour européenne des droits de l'homme, qui épingle régulièrement la Suisse, sont des ingérences et des atteintes insupportables à son autonomie, d'où le lancement de son initiative « Le droit suisse au lieu de juges étrangers ». Alors, qu'en est-il ? La Cour de Strasbourg remplit-elle encore aujourd'hui sa mission initiale ? Ou est-elle sortie de son rôle d'aiguillon et de gardienne des droits humains en Europe ? Pour tenter d'y voir plus clair, on va retourner à Strasbourg. On se baladera dans et autour du Palais de l'Europe. Car dans les rues et les parcs adjacents, des justiciables venus de différents pays d'Europe vivent, ou plutôt survivent, en attendant une hypothétique prise en compte de leur requête. Voici « Squatteurs sans frontières », un reportage de Christophe Canu, réalisé par Rodolphe Beauchaud.
Je suis Cécile.
Y a quelqu'un ?
En fait, y a personne.
C'est la maraude !
C'est impressionnant, hein ?
Là, on est sous un pont.
Oui, on est sous le pont. Sous un pont, et voilà, si on avait plus de lumière,
ouais.
On verrait un peu plus, mais... Bonjour.
Bonjour.
C'est la maraude.
C'est la maraude.
On vous dérange, hein ?
Non, on ne dérange pas.
Ok, d'accord. On vient voir si tout va bien pour vous ?
Oui.
Est-ce que vous avez mangé ce soir ?
Non.
Non ? Est-ce que ça vous intéresse ? Est-ce que vous avez...
Voilà.
Oui ?
Ok.
Oui. Est-ce que vous voulez bien nous accompagner ?
Oui.
On a un véhicule juste à côté.
Voilà.
Oui ?
Oui, c'est bon.
Ok, venez avec nous alors.
Ok.
Tiens, t'as dormi ?
On dormit, hein ? On s'est mort au moins, ou... Et moi ici, la droite de l'homme, s'il vous plaît. Au pas institut... institut... du public, la Roumanie n'a pas fonctionné.
Vous venez de la Roumanie ?
Oui.
Voilà. Jean-Pierre ?
Oui.
Votre Rémus.
Rémus ?
Oui. Rémus ?
Rémus.
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 Et...
Narcisse.
Narcisse. Narcisse. Enchanté, Narcisse. Voilà. Rémus. Jean-Pierre.
Ok.
Cécile.
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 Ok. Ok.
Merci.
Voilà. Moi, je suis éducateur. On travaille pour la ville de Strasbourg, d'accord ?
Oui. Du communautaire de Strasbourg,
d'accord ?
Non ?
Voilà.
Ok. Et moi, je suis assistante sociale.
Oui. Voilà.
Pareil, on est collègues tous les deux.
Oh, okay.
Voilà.
Ok.
La mairie, Strasbourg.
Hein. Voilà. Compris.
Ok. Okay. Vous avez mangé ? Vous l'avez dit ?
La soupe ?
Soupe, Bolino ?
Oui.
Soupe ? Allez, tout. Allez, c'est parti.
Non manger, non travailler, non money, non. Excusez-moi, s'il vous plaît.
Ah oui, je comprends.
Non, c'est moi, viens ici, la droite de l'homme.
Ouais. Vous venez d'où ?
La droite de l'homme.
Roumanie.
Vous venez de la Roumanie ?
Roumanie.
Et
Roumanie.
Vous, monsieur ? Roumanie également ?
Oh, oui. Oui, oui.
Vous avez déposé un dossier alors ?
Oui.
Et ça fait combien de temps que vous êtes là ?
2011.
Depuis 2011 ? Ça fait 4 ans déjà ?
Oui.
Oh là là. Vous l'aviez jamais vu ?
Non, monsieur, non.
En fait, c'est vrai que les maraudes ne viennent pas souvent ici, oui. Parce que c'est un peu... un peu lugubre, enfin c'est sombre, ça fait un peu peur. Vous voyez, sous le pont, c'est pas, vous voyez, c'est un peu, il y a beaucoup de tentes et c'est, on sait pas qui il y a.
On a deux, trois, quatre, cinq, six. Ça c'est pour partir, ça je connais que sept.
Sept personnes, six ici et un de l'autre.
De l'autre côté, hein.
Ah oui, exactement. Oui.
Mais ils sont pas tous là pour le droit de l'homme.
Stéphane.
Lui, il est. Lui, il est
Stéphane,
là.
La droite de l'homme, ouais, ouais.
C'est
moi.
C'est Michael Jardin.
Hein. Exactement.
Ouais, ouais, ouais.
C'est moi. Ivan. Il tourne la droite de l'homme. Il y a ça. Mihai.
Mihai.
La droite de l'homme. Si Gheorghe Frunze, tourne la droite de l'homme.
Cinq personnes pour la justice.
Qu'est-ce qui vous arrive?
De cât timp ești în Strasbourg?
Pentru, pentru la droite de l'homme.
Mais pourquoi?
Institution publique la Roumanie va fonctionner. Non travailler, non money, non problème. Les
et vous avez posé un dossier?
Un dossier de
oui, 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 oui.
Oh,
oui, oui, oui.
Quand vous êtes en Roumanie,
oui.
Vous entendez parler de Strasbourg?
Oui.
Des droits de l'homme?
Oui.
Oui.
Ah ouais.
Oui,
ah, ici, ah, ici la droite de l'homme, s'il vous plaît.
Mais oui, oui, bien sûr.
Oh non, ici au Honolulu, Honolulu.
Mais non, non, mais ouais, 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 c'est, hein. Mais non, mais parce que on se dit. Vous avez quand même fait des kilomètres pour venir.
Oui.
Oh, oui, 2000.
Ah, comme ah oui, comme quand ça. Même, ouais, ouais.
Voilà,
voilà. Bon, merci. Cette fois, nous, il faut qu'on se sauve. Hein. Bonne nuit à vous. Et on repassera alors, d'accord?
D'accord, d'accord.
Allez. Au revoir.
Bonne soirée.
Au revoir, bonne soirée.
Au revoir.
Merci beaucoup.
Merci. Strasbourg est connu jusqu'en Roumanie. C'est... Ah, c'est vrai, hein. Droit de l'homme. Alors que pour nous, enfin pour moi, voilà, c'est... Moi, je me rends pas compte vraiment de la portée, quoi, mais c'est... C'est vrai qu'ils viennent là pour... Et ils y croient encore. Ils espèrent, toujours encore. Après, il y a beaucoup de tentes, mais elles ne sont pas tellement occupées. Parce que les personnes qu'on a rencontrées, c'est des personnes qui restent là tous les jours, tout le long de l'année. Puis il y a des personnes qui viennent que quand il y a peut-être, je sais pas, une séance ou quand il y a quelque chose par rapport à leur dossier. Donc, ils viennent, ou de temps en temps, ils viennent pour montrer qu'ils sont encore là, mais ils ne passent pas autant de temps que eux qui sont là, qui resteront là jusqu'au bout, je pense. Et nous, la difficulté qu'on a, c'est en fait, il faut qu'on aille les voir et ils savent en fait qu'on ne peut pas leur aider à faire avancer le dossier parce que ça ne dépend pas de nous.
Vous savez le nombre de nationalités qu'il y a?
Alors, il y a polonais, il y a allemand, portugais,
italien.
On avait quand même déjà plusieurs fois des allemands.
Oui.
Oui.
Hongrois.
Mmh. Mmh. Ah, oui. Il n'y a pas de français. C'est vrai, hein.
Mm-hmm.
On a rarement vu, ça nous faciliterait les choses quand même. Un français avec qui on pourrait parler. Mais ben non. On a beaucoup de personnes qui ne parlent pas forcément notre langue et c'est vraiment difficile.
Voilà, on vient de passer le Parlement européen, donc c'est le prochain arrêt qui s'appelle le droit de l'homme.
Prochaine station, droit de l'homme.
Bien, vous descendez.
Voilà, on est descendu du tramway. En face de nous, il y a le bâtiment de la Cour européenne des droits de l'homme. Mais avant d'y rentrer, si on regarde sur le côté, là, il y a des panneaux accrochés à des barrières par des requérants déboutés. Vous avez déjà fait attention à ça?
Oui, je les connais parce que c'est pas nouveau. Ça fait 20 ans, moi, que je viens à la Cour européenne des droits de l'homme et que je vois ces panneaux de victimes qui se sont vues déboutées par la Cour européenne des droits de l'homme parce que leur requête a été déclarée irrecevable. Il faut savoir que 95% des requêtes envoyées à la Cour de Strasbourg sont déclarées irrecevables, donc il n'y aura pas de jugement au fond. Pour plusieurs raisons, ça peut être parce que le droit qu'ils invoquent n'est pas couvert par la Convention, ça peut être parce qu'ils ont dépassé le délai dans lequel il fallait envoyer l'affaire à Strasbourg suite au dernier jugement rendu par leur tribunal national. Donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent expliquer, mais malheureusement ces victimes souvent sont des individus qui ne sont pas représentés par des avocats ou qui ne sont pas épaulés par des ONG qui pourraient mieux leur faire comprendre le système et les limites du système, parce que chaque système a ses limites. Et donc évidemment pour eux c'est très compliqué de comprendre pourquoi la Cour de Strasbourg n'a pas accepté leurs revendications, n'a pas reconnu qu'ils sont victimes. Et pour eux, évidemment, c'est très important parce que la Cour de Strasbourg, pour beaucoup de citoyens, et même, j'ose dire, pour presque tous, c'est l'étape ultime d'obtenir justice. Donc c'est un espoir immense qui s'arrête subitement. Et il n'y a aucune possibilité, il n'y a pas d'appel après la Cour de Strasbourg. C'est la dernière étape.
On va se mettre à l'abri ?
Oui.
Parce qu'il pleut assez fortement aujourd'hui à Strasbourg. Bonjour monsieur.
Bonjour. Merci.
On vient de passer le portique de sécurité et on est au cœur du palais de la Cour européenne des droits de l'homme, toujours en votre compagnie, Elisabeth Lambert-Abdelgawad. Je rappelle, vous êtes directrice de recherche spécialiste de la justice européenne et des droits de l'homme. Si on regarde à travers cette baie vitrée de ce hall d'accueil, on voit donc différentes instances européennes. Il y a le Parlement européen et puis juste à côté, relié par une passerelle, il y a le bâtiment du Conseil de l'Europe. Il n'y aurait pas ici de Cour européenne des droits de l'homme s'il n'y avait pas eu auparavant la création du Conseil de l'Europe.
Ah, tout à fait. On a commencé par mettre en place le statut du Conseil de l'Europe qui a été adopté à Londres en mai 1949, en réaction à la Deuxième Guerre mondiale, parce qu'il y avait le sentiment qu'il fallait absolument faire quelque chose pour rapprocher ces États européens, pour coordonner un certain nombre de politiques et notamment éviter les atrocités commises pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais tout de suite, en 1948, le mouvement européen a eu l'idée de mettre en place un mécanisme de droits fondamentaux avec un organe judiciaire. Donc ça, c'est très important. Et le premier projet élaboré par le mouvement européen a été transmis en juin 1949, donc un mois après la création du Conseil de l'Europe, pour préparer. Et la Convention européenne des droits de l'homme a été signée en 1950. Donc ça s'est fait finalement assez rapidement, alors qu'on est dans un contexte en plus de guerre froide, auquel on n'était pas nécessairement préparé. Donc c'est allé assez vite, mais c'était très important. Et surtout, ce qu'on visait à l'époque, c'était les graves violations commises par un régime dictatorial. Donc c'était surtout ça qui était visé. Et c'est pour ça qu'on a donné la possibilité de requête porté par un État contre un autre État pour dénoncer les violations commises par un autre État, et puis la possibilité aussi de requêtes portées par des individus. Mais on ne s'imaginait pas que les requêtes individuelles seraient celles qui auraient le plus de succès.
Aujourd'hui,
mais même déjà dans les années 70, ça a pris déjà une ampleur considérable. Les requêtes interétatiques, en fait, n'ont pas véritablement fonctionné parce que c'est toujours délicat pour un État de dénoncer un autre État. Et on s'est rendu compte que finalement, eh bien, les États ne protègent pas si bien que ça les libertés fondamentales et qu'il peut être très utile d'avoir un mécanisme ultime, une Cour européenne qui, elle, va trancher de façon définitive le contentieux. C'est ça l'idée. C'est de trouver un standard commun, d'assurer un standard minimal de protection des droits fondamentaux en deçà duquel un État européen qui serait parti au système ne pourrait plus retomber. On peut très bien voir un gouvernement qui arrive au pouvoir d'un de nos États et revenir sur certains acquis. Et dans ce cas-là, le mécanisme de la Convention européenne sera extrêmement utile parce qu'il évitera des retours en arrière en matière de liberté fondamentale.
À l'origine, combien de pays ont fondé le Conseil de l'Europe ?
Alors, à l'origine, on a 10 pays. En 1949, qui fonde le Conseil de l'Europe, notamment les pays du Benelux, la France, l'Allemagne, l'Irlande, l'Islande, le Royaume-Uni. La Suisse ne fait pas partie des 10 premiers. Et puis, progressivement, au cours des années, eh bien, les autres États occidentaux vont tous adhérer. Et après la chute du mur de Berlin, eh bien là, ce sera un nouvel élan qui sera donné, puisqu'on va pouvoir réaliser la Grande Europe, qui correspond à la géographie de l'Europe telle qu'on la connaît, avec 47 États membres. Il y a la Biélorussie qui reste en dehors, notamment parce qu'elle continue d'appliquer la peine de mort, et que la peine de mort est interdite, notamment par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc c'est un acquis très important. Et dans ces conditions, évidemment, la Biélorussie ne peut pas rentrer au jour d'aujourd'hui au Conseil de l'Europe.
Vous savez, en ce qui concerne l'Union européenne, il y a des discussions à savoir si la Turquie peut y rentrer ou pas. Est-ce que la Turquie fait partie de l'Europe? Là, dans le Conseil de l'Europe, parmi les 47 pays, il y a la Turquie, il y a l'Azerbaïdjan. C'est une grande vision de l'Europe. Il y a eu des discussions pour savoir où on s'arrêtait, où ça allait de soi?
Non, ça n'allait pas tant de soi que cela. Il a été mis en place ce qu'on appelle un mécanisme de contrôle de la compatibilité des mécanismes nationaux, notamment avec la Convention européenne des droits de l'homme. Parce que ce qui est devenu automatique, ça ne l'était pas en 1950, c'est qu'un État qui adhère au statut du Conseil de l'Europe doit nécessairement être parti à la Convention, au mécanisme de la Convention européenne des droits de l'homme avec l'organe judiciaire qui est la Cour de Strasbourg. Et par conséquent, avant d'accepter ces États, eh bien, il y a eu mise en place de commissions d'experts pour s'assurer que le droit national respectait les standards minima qu'on est en droit d'attendre, notamment par rapport aux droits fondamentaux reconnus dans la Convention. Donc, il y a eu ce mécanisme préalable qui a fait que certains États sont rentrés plus tardivement que d'autres. Maintenant, il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de retour en arrière et qu'il n'y ait pas de sortie, ce qui est un des défis actuels de l'organisation, parce qu'évidemment, rien n'empêche à ce qu'un État sorte volontairement du mécanisme, voire en soit exclu, parce qu'il faut bien voir que le mécanisme de la Convention européenne des droits de l'homme et de la Cour ont pris une dimension considérable au sein du Conseil de l'Europe. Le budget de la Cour européenne des droits de l'homme, c'est maintenant un tiers du budget du Conseil de l'Europe, à côté des deux autres piliers qui subsistent, que sont l'état de droit et la protection de la démocratie.
Cet homme dormi là, dans la poste, cet homme Dominique.
Ah oui, ouais. Il dort juste devant la grille, là.
Italien.
Vous êtes là depuis longtemps?
3 ans et demi.
Vous dormez où?
Et de là, à la grille. Là.
Mais là, vous n'avez même pas de tente, vous?
Je me trouve sous l'étoile.
Sous les étoiles?
La pluie, le soleil, le froid, ça va mal.
Ouais. Qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous êtes venu là?
Protestation à la cour. Mon dossier n'est pas pris en juste considération. Pas admissible, le recours à la Cour. Pas juste, pas juste.
Parce que vous avez l'impression que la Cour européenne s'est trompée sur votre cas?
Oui, j'ai voulu que la Cour prenne en considération ma situation.
Qu'est-ce qui vous est arrivé?
Je suis contre l'État italien.
Qu'est-ce que vous lui reprochez?
Et violation de mes droits.
Mais par rapport à quoi?
Travail et... Et justice, je n'ai pas obtenu la justice en Italie.
Vous avez été licencié, c'est ça?
Oui, oui, et j'ai perdu mon travail et la magistrature italienne n'a pas pris en considération mes causes.
Et vous avez l'impression que votre présence ici, ça change quelque chose?
C'est... Ne change pas pour la Cour, change pour moi.
Pour vous, c'est important d'être là?
Oui, oui. Je voulais protester jusqu'à la mort. La seule solution. Ou la Cour me donnait la juste solution, ou je préfère mourir.
En 1994, alors qu'on est en plein élargissement du Conseil de l'Europe, puisqu'on est 5 ans après la chute du mur de Berlin, les États du Conseil de l'Europe décident de geler le budget global du Conseil de l'Europe, d'adopter ce qu'on appelle la croissance réelle zéro. 69 millions d'euros pour la Cour européenne des droits de l'homme, pour 820 millions d'habitants potentiellement requérants. Ça veut dire que chaque citoyen, vous, moi, nous cotisons 8 centimes d'euros par an pour faire fonctionner la Cour de Strasbourg, ce qui est absolument minime. alors que c'est une cour qui fonctionne, c'est une cour permanente, avec des juges donc, qui siègent à temps plein, qui ne chôment pas, c'est le moins qu'on puisse dire, parce qu'ils rendent plus de 1200 arrêts par an, ils traitent un nombre très important de requêtes. Si on regarde par rapport au budget de la Cour de justice de l'Union européenne de Luxembourg, qui a moins d'affaires à traiter, qui ne couvre que 28 États, donc qui traite d'un contentieux, évidemment, qui concerne plus le droit de la concurrence, etc. Donc le budget de la Cour de Luxembourg, c'est 3 à 4 fois le budget de la Cour de Strasbourg. Mais là, évidemment, les États sont toujours réticents à donner plus d'argent à un organe judiciaire en matière de droits fondamentaux. Donc c'est un budget qui, je pense, ne va pas pouvoir beaucoup augmenter, même si aujourd'hui le greffe et la présidence de la Cour réclament encore des moyens supplémentaires, notamment pour mettre fin au fameux backlog. Le backlog, ce sont toutes les affaires en fait, qui sont pendantes depuis un nombre d'années considérable. Mais ce backlog s'est quand même beaucoup réduit. Aujourd'hui, on a à peu près 60 000 affaires pendantes, alors qu'on avait un pic en septembre 2011, de presque 160 000 affaires pendantes, c'est-à-dire 160 000 dossiers envoyés par des requérants qui ne sont toujours pas traités par la Cour, faute de temps. Ce qui pose problème parce que un des articles de la Convention qui a donné lieu à beaucoup d'arrêts condamnant les États concerne le droit à un procès dans un délai raisonnable au niveau interne. Or, au niveau européen, eh bien, il fallait souvent attendre 4-5 années avant que sa propre requête donne lieu à une décision finale de la Cour de Strasbourg. Alors, ces dernières années, il y a eu une pression de plus en plus importante par certains États, et notamment par les gros contributeurs, pour dire « ça suffit, on ne peut plus augmenter le budget de la Cour, donc il faut que la Cour se réforme en profondeur, adopte des mesures de fonctionnement qui permettent à la fois de traiter plus rapidement des décisions, notamment des décisions irrecevables. » Et là, ça pose un souci, parce que 95% des affaires déclarées irrecevables qui vont être jugées maintenant par un juge unique depuis le protocole 14, alors ça a eu l'effet bénéfique, bien sûr, de faire baisser considérablement le nombre d'affaires pendantes.
Avant, comment elles étaient traitées ?
Alors avant, elles étaient traitées au minimum par un comité de 3 juges. Maintenant, elles sont, dans leur grande majorité, dès lors qu'on considère qu'elles sont manifestement irrecevables, elles sont traitées par un juge unique. Il y a quand même une pression en termes de chiffres. Il faut rendre plus de décisions, il faut être plus performant. D'ailleurs, on parle de plus en plus de performance judiciaire. Jusqu'où ça va ? Jusqu'où la qualité de la justice est sauvegardée ? C'est un défi qui reste présent au jour le jour.
Autre mesure envisagée aussi, qui va dans le sens d'une volonté d'accélération, d'améliorer la performance de la Cour, c'est la diminution du temps de dépôt possible d'une requête. On est aujourd'hui à 6 mois, après l'arrêt rendu par la Cour suprême nationale, on veut passer ce délai à 4 mois.
Oui, donc ça pose problème quand même pour les victimes qui n'ont pas toujours conscience de cette possibilité d'aller devant la Cour européenne des droits de l'homme, qui ne sont pas toujours aidées par des avocats, qui sont pas toujours bien conseillées, parce qu'il y a aussi des ONG, des avocats dans un certain nombre de pays qui connaissent encore assez mal le système de la Convention. Et ça, c'est un véritable problème, même s'il y a beaucoup d'efforts au niveau du Conseil de l'Europe pour essayer de former de plus en plus tous ces acteurs au système de la Convention. Mais c'est un système compliqué, avec beaucoup d'arrêts. Il faut comprendre la jurisprudence de la Cour. Donc ça va être un obstacle et ça va nécessairement avoir un impact sur le nombre de requêtes qui sera envoyé.
Donc on peut dire que c'est un pas en arrière pour les citoyens ?
On peut dire que c'est un pas en arrière pour les citoyens dans les États pour lesquels les mécanismes nationaux ne sont pas suffisamment performants pour envoyer à temps les requêtes. Pour beaucoup d'États dans lesquels les avocats, les acteurs sont bien formés, ça ne devrait pas poser beaucoup de difficultés. Donc encore une fois, ça va pénaliser, je pense, les populations les plus vulnérables. Ça va pénaliser les détenus qui sont un peu coupés de l'information. Ça va pénaliser les individus qui finalement en auraient le plus besoin.
058-236-236-0. Vous allez pouvoir réagir à ce reportage de Christophe Canu à Strasbourg. Selon vous, la Suisse doit-elle continuer à participer au fonctionnement de la Cour européenne des droits de l'homme, continuer à prendre en compte ses jugements, ses avis pour faire évoluer sa propre justice? Ou bien faut-il, comme le demande l'UDC, tourner le dos à cette instance européenne et abandonner toute référence à la Convention européenne des droits de l'homme? 058-236-236-0, vos avis et vos arguments nous intéressent.
Vacarme, Véronique Marty, Marc Jouz, Stéphanie Coudray, Diane Dufaux, Christophe Canu, Rodolphe Beauchaud.
Dimanche, entre 9h et 10h, dans les Échos de Vacarme, je recevrai l'avocat genevois et conseiller national UDC Yves Niedeguer et le juriste de la section suisse d'Amnesty International, Alain Bovard. On poursuivra la réflexion sur l'utilité et l'efficacité de la Cour européenne des droits de l'homme. Et on vous fera entendre en début d'émission une sélection de vos messages déposés tout au long de la semaine sur le répondeur de Vacarme.